Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5.
Saison 5, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant,
now,
lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Christopher Dessus. Bonjour Christopher.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Merci, merci pour l'accueil.
Bah avec plaisir. Tu es architecte et à la tête de PAF Atelier. Alors, on va commencer par un aparté sur le goût de l'architecte. Aimes-tu les plaisirs de la table? Quels sont tes mets préférés? As-tu un souvenir gustatif?
Ah ouais, c'est précis. Ouais. J'adore manger. Je pense que quand j'y réfléchis un petit peu, c'est vachement relié à la terre, aux légumes de mon grand-père, aux légumes que mon père cultive, à ce goût-là un peu simple, du peu cuisiné pour la plupart, et avec des éléments qui sont vraiment liés au goût, des choses un peu brutes. Je crois que j'aime les choses, ouais, effectivement simples, pas sophistiquées, pas trop travaillées, quoi. Quelque chose de... Et puis mon père m'a toujours appris des choses simples, voilà.
D'accord. Un souvenir gustatif à part
un souvenir ben peut-être oui parce que je viens du sud, je viens de Nice, je suis un niçois sorti tôt du sud, mais oui, peut-être la soca ou des choses comme ça, des choses qu'on prend dans la rue avec mes grands-parents, des souvenirs très simples comme ça, ouais.
Alors mon petit doigt m'a dit que tu étais féru de culture. Et c'est ce qui te fait avancer et tu interviens dans bien des domaines. Tu as été sélectionné il y a peu avec la grande agence Hermateus pour le schéma directeur du centre Beaubourg, par exemple. Mais on va commencer par le début. Quel est ton parcours? Quelle a été ta jeunesse? Où s'est ancrée ton envie d'architecture? Quelles ont été tes études?
Mon parcours, il est très lié, on va dire, à une sensibilité. Une sensibilité assez grande, comme si tout était un peu débordant, tout important quand j'étais plus jeune. Et je suis un peu parti de rien. Ma mère écoutait en boucle J'en rêve encore de Palmas à fond. Et puis je reviendrai sur ma mère parce qu'elle a été importante aussi dans le schéma. Mais je viens vraiment de la terre de mes parents, quoi. De leur éducation, de leur sens de l'honnêteté, du sens de la franchise, de la fierté, d'un besoin de comprendre un peu qui on était. Et mon parcours est parti de là, d'une espèce de base un peu forte.
Tu as grandi à la ville ou à la campagne?
J'ai grandi à la campagne, un peu dans une sorte de ferme slash exploitation agricole. Mon père est horticulteur, ma mère l'a suivi aussi assez jeune. Ils ont cultivé des œillets avec mon grand-père avant, puis ça a évolué en gerbera, puis en germini, enfin... C'est quelque chose qui se passe un peu de génération en génération et que j'ai décidé d'arrêter. Et c'est une enfance assez basée sur l'exploration de l'intime, donc des choses qui me tracassaient, des choses que je comprenais pas vraiment, et en même temps l'exploration de un peu de la dureté de la vie à la campagne, la dureté du schéma aussi. Du matin, des levées très tôt, du sens de l'effort, du labeur, comme j'en parlais à mon père récemment. Et quand je dis l'exploration de l'intime, c'est aussi lié à une mère aussi qui était très pop, qui était très Madonna, Janet Jackson, ou Kylie Minogue, Céline Dion, Farmer, elle était à fond. Et ces deux choses, en fait, étaient, enfin, à la fois un père très très dur et en même temps une mère très très dans l'intime, très dans la sensibilité, m'a un peu façonné un peu à double, on va dire comme un recto verso. Et je m'en souviendrai toujours quand elle me déposait en fait à fond la caisse avec sa Golf à l'arrêt de bus, elle avait à fond Madonna. J'étais à la fois honteux et à la fois j'aimais tellement ça. Et c'est là que j'ai compris aussi plein de choses sur ma sensibilité à autre chose. C'est-à-dire qu'à la fois je vivais à la campagne, à la fois j'avais cette attirance-là, j'étais bien où j'étais, et en même temps j'avais envie de sortir de là, comme si je rêvais à autre chose. Et très jeune, en fait, j'ai travaillé avec mon père. Les fleurs ont été vraiment un ciment très fort entre nous. J'en ai fait une exposition à Agora du Design aussi il y a quelques temps. Et ces bases très solides m'ont permis aussi ensuite de commencer à esquisser des envies d'art, en tout cas de design, ou en tout cas de choses plus travaillées, plus réfléchies ou plus intellectuelles peut-être. Et j'aspirais, je pense, à me sauver un peu de là, comme si on avait
besoin. C'était trop dur.
C'était très dur, ouais.
Ouais.
C'était vraiment très très dur.
Le froid, les mains dans l'eau, non, c'est un peu ça.
Ouais, et puis maman a eu, je dis passe de la mère à maman. Maman a eu pas mal de problèmes aussi de santé vis-à-vis de ça. Je voyais aussi mon père dans la dureté du froid, effectivement. Puis le travail un peu tous les jours, quoi, sans arrêt, sans cesse, sans lâcher prise en fait.
On peut pas
parce que les fleurs elles continuent de pousser, elles atteignent une certaine maturité, elles vont plus vite parfois que prévu. C'est un peu incontrôlable. Et cet incontrôle-là, c'était peut-être la seule partie, peut-être, j'extrapole peut-être, mais
une fragilité.
De mon père en fait. C'était l'expression pour moi de la fragilité de mon père. Des choses qui n'étaient pas forcément expliquées, palpables, mais grâce à la terre et grâce à son pouvoir des fleurs, on va dire. Pour citer Woolsey, parce que j'aime bien aussi l'écouter. ils m'ont mis dans une espèce de quête, un peu de moi-même et de ma place vis-à-vis d'eux, dans une famille. Donc les fleurs faisaient partie de la famille, elles étaient à la fois hyper salvatrices, hyper poétiques et en même temps éphémères et très très dures.
Mmh. Alors ce désir d'architecture, il est arrivé quand?
Le sauf qui peut est arrivé, on va dire, lors de mes études en art appliqué, parce que j'ai décidé de finalement pas faire un bac général, mais faire un bac technologique. J'ai eu la chance de pouvoir faire partie des dernières générations à avoir le bac art appliqué AA, qui a été absolument dingue pour moi, qui a été une espèce de... une explosion, entre guillemets, de saveurs.
De couleurs, peut-être.
Et de couleurs et de formes. Ouais. Ma première étude des cas, c'était sur Matali Crassé, où j'ai une note terrible. Et c'est toujours été le premier.
Note terrible, très basse ou très haute?
Très, très, très basse.
Très basse.
Je savais pas dessiner, c'était vraiment, vraiment le départ de zéro, quoi. Et donc ça a commencé comme ça, et pendant 2 ans j'ai travaillé énorme et très très dur, un peu à l'image de mon père, de ma mère aussi. Je me levais très tôt, j'avais une discipline assez implacable pour pouvoir me sortir de là, essayer de comprendre qu'est-ce qui m'animait. J'ai fini avec de très très bonnes notes au bac, et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer directement à l'école de Versailles en architecture. Mais ça a commencé aussi par une sorte d'entourloupe numérique, en changeant au dernier moment en fait mes vœux et mon choix pour l'école de Versailles, parce qu'à la base maman et papa voulaient que je reste près d'eux à Marseille, que j'aurais bien aimé finalement avec du recul, mais je crois que j'avais besoin de distance, j'avais besoin d'avancer
vivre ta vie.
Vivre ma vie, on va dire. Pour refaire encore une référence musicale.
Ouais, c'est le fameux cordon qui nous lie et qu'on aimerait couper, mais qu'on ne peut pas vraiment couper.
Exactement.
C'est ce tiraillement permanent. Mm-hmm. Et la distance permet peut-être de se construire soi-même.
De se construire soi-même, peut prendre un peu aussi des distances vis-à-vis de ma sœur, qui est aussi une personne extraordinaire que j'aime beaucoup. Et en fait, à la suite de mes études à Versailles, en complément, on va dire, j'ai eu la chance de partir au Québec, au Canada, et de pouvoir vivre à Montréal, en fait, quelques années, quelques temps, m'a permis aussi de complètement continuer cette quête de sens dans un monde, on va dire... Ou quand même, ils ont quand même, les Québécois, je trouve, une sorte de vision assez positive des choses, assez salvatrice, assez dans l'avant. C'est un pays qui a quand même pas l'histoire entre guillemets française, etc., mais qui essaie de se trouver en fait et de tenter d'essayer. Et cette chose-là autour de l'essai m'a donné aussi beaucoup d'idées et beaucoup de de motivation à me dire en fait peut-être que je viens pas de là, peut-être que je suis pas, j'étais pas prédestiné à être ici, mais peut-être que j'ai aussi la chance de pouvoir le faire. Et c'est vraiment toujours resté cette chose-là de me dire je suis pas vraiment à ma place, mais j'essaie de la trouver, j'essaie de la chercher. Et le Québec était vraiment bien pour ça. Voilà.
Bon. Et l'architecture alors dans tout ça ?
L'architecture est arrivée. À la fois comme une évidence et à la fois comme quelque chose que je voulais pas forcément faire. L'architecture, c'était à la fois pour moi la vision des grands possibles, des échelles, des usages. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Les monuments, c'est que ça a commencé comme ça. L'architecture, ma première rencontre avec l'architecture, peut-être que c'était celle de mes parents en fait, ou celle des serres de mon père. Donc c'était assez rudimentaire, mais je pense que l'envie d'architecture, c'était aussi une façon de aussi faire plaisir à la famille, de me dire, de leur dire aussi que c'était un bon premier pas vers l'art, peut-être. C'était rassurant. Du coup, j'y suis allé. Le design m'intéressait pas du tout à l'époque. Les objets, pas du tout.
C'était trop superficiel, peut-être.
C'était quelque chose que je comprenais pas. Je comprenais pas l'intérêt pour cette matérialité aussi forte. Je l'ai compris après. Mais la porte d'entrée vers l'architecture, ça a été une envie assez immédiate, mais après j'en ai découvert d'autres. Enfin, j'ai découvert finalement que l'architecture était beaucoup plus ouverte que ce que j'imaginais.
Alors Versailles et le début de ton activité d'architecte.
Bon, du coup j'ai passé du temps à Versailles. Je suis parti au Québec, je suis revenu en France, j'ai passé mon diplôme et à la suite de ce diplôme là. J'ai assez vite compris que exercer en agence d'architecture, ça allait être une petite année. J'ai fait quelques expériences en agence. J'ai démarré aussi une formation en direction artistique à la Fonderie de l'Image en tant que graphiste, parce que j'avais besoin aussi de comprendre des choses. Et ça a été aussi le moment de la création de Pli, de la revue, qui était une façon pour moi de condenser architecture, édition, essayer de comprendre un peu pourquoi j'étais là et pourquoi en fait l'édition m'attirait presque plus que l'architecture in fine. Bon, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert à travers l'édition en fait énormément de métiers aussi, le graphisme, la mise en page, la traduction, la curation, le commissariat, et tout ça m'a permis vraiment de commencer une espèce de maturation d'un processus, on va dire, d'identité vis-à-vis de ma carrière professionnelle. Et toutes ces expériences-là ont fini par me faire atterrir à la Villa Noailles, où j'étais chargé de production pendant à peu près un an et demi, où j'ai eu la chance d'accompagner quand même pas mal d'expositions, autant de festivals de mode que design parade ou encore des expositions en parallèle. Et j'avais pas le statut d'architecte, c'est-à-dire j'avais pas le statut de concepteur, dessinateur, la personne qui orchestre tout. J'avais vraiment pas ce rôle-là. J'avais un rôle un peu, on va dire, un peu parallèle, mais en même temps hyper essentiel, celui de la production. Comment réaliser des choses qu'on dessine, comment rendre possible des idées avec des moyens plus ou moins hauts, travailler dans l'économie, travailler dans la responsabilité des choses, dans leur expression la plus totale, et surtout collaborer. C'était un peu la première fois où je m'étais mis dans cette condition-là de, en fait, je sais pas tout. En architecture, on nous apprend un peu quand même à avoir un certain statut, c'est-à-dire un peu haut, avec un peu d'ego,
avec beaucoup d'ego,
mais et ça m'a fait vraiment redescendre à une place qui m'a beaucoup plu, celle de l'équité, de l'horizontalité, et celle de en fait je ne sais pas tout, je vais apprendre des autres pour pouvoir faire mieux et produire mieux. Et j'ai travaillé avec des grands directeurs artistiques de maison, j'ai travaillé avec beaucoup d'architectes aussi. Et cette vie-là a ce pouvoir-là, peut-être, de mettre un peu les gens tous au même niveau et essayer de comprendre non pas ce qui nous tracasse ou ce qui nous fait une sortie en mal, donc peut-être notre ego, notre travail d'ego, mais plutôt s'exprimer au mieux, libérer la créativité. Et c'est ça vraiment qui m'a donné une bonne impulsion dans la vie. Et,
c'est une clé.
Ouais, une bonne clé pour comprendre que, en fait, on peut faire des choses avec pas grand chose aussi, que il suffit d'avoir une vision, et il suffit d'être emporté d'une idée, il suffit, Jean-Pierre Blanc est aussi assez remarquable pour ça, avec plus de 30 ans, en fait, d'expérience, il emporte quand même des gens, il était quand même assez, il est toujours, voilà, il porte, quoi. Il est porteur de projet et il nous amène un peu dans son énergie. Et son énergie, elle m'a beaucoup alimenté et m'a permis, en fait, d'accéder aussi à d'autres envies de construction et d'entrepreneuriat. J'avais commencé avec, du coup, avec la maison d'édition Pli Édition. Quand j'étais à la Villeneuve, c'était le troisième numéro et ça a duré encore quelques années. Et c'est là que PAF Atelier est né.
Alors,
à la suite
PAF
de cette villa.
Pourquoi ce nom?
Ben, on pose souvent la question, mais j'aime bien les trois lettres. Ces trois lettres.
PAF, c'est facile.
PAF, c'est facile. Pli, c'est facile. Je pense que j'avais pas envie d'intellectualiser trop. Je pense que j'avais pas envie de mettre mon prénom et mon nom en avant. J'avais pas envie, je crois, de mettre en distance. J'avais juste envie d'avoir un onomatopée, je pense, ou quelque chose d'assez simple à faire passer. Puis paf, c'est marrant, paf le chien, paf. c'est assez énergique, en fait, comme signe plutôt quelque chose de plutôt en avant. Je vois quelque chose plutôt en avant. Mais il n'y a pas trop d'intellectualisation, non.
Tu as investi depuis peu de nouveaux locaux, rue de la Folie Méricourt.
Oui.
C'est très chouette, on est sous les toits,
oui,
avec une très belle vue sur Paris. Tu as maintenant des salariés. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui tu as le sentiment d'avoir accompli ce que tu imaginais à la sortie de l'école?
Eh bien, c'est une question, je trouve, hyper compliquée. En fait, j'ai cherché un petit peu, justement, j'écris beaucoup. Et j'étais allé chercher, il y a quelque temps, la définition de l'accomplissement, s'accomplir. Et en fait, il y a un peu deux définitions. Il y a faire quelque chose et aller jusqu'au bout. Je pense être allé à un certain bout. Bon, je suis assez jeune, j'ai 31 ans, mais j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour d'un sujet qui est celui, effectivement, de l'hybridation entre les métiers, qu'est-ce qu'être architecte aujourd'hui, comment relier avec les questions du design, etc. Et de voir aussi ce que ce métier demande. L'autre définition que j'aime bien aussi avoir vis-à-vis de ce mot accomplir, c'est de mettre à exécution une vision de plus en plus précise, en fait, sur ce qui est bon ou ce qui nous semble bon à faire, en fait, et ce que j'ai envie de raconter. Et cette mise à exécution, en fait, elle prend du temps. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs phases dans ce travail-là, justement, de comment sortir de l'école. Il y a effectivement essayer d'aller jusqu'au bout de quelque chose, comme si c'était une évidence, comme si c'était notre premier... comme si c'était très instinctif. Donc j'ai une approche très instinctive, très impulsive, parce que je suis un peu comme ça aussi. J'y vais un peu avec grand cœur.
Sans trop réfléchir.
Sans trop réfléchir, et j'aime bien ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis plus dans l'exécution, dans la reprise d'une exécution peut-être plus précise, plus fine, plus dans le détail. La maturité, peut-être.
Oui. Alors, justement, on a parlé de toi. Est-ce que tu peux maintenant raconter l'histoire de tes projets? Alors, il y a eu Pli, projet d'édition, mais après.
À travers PAF Atelier, l'idée, c'était d'arriver à avoir un spectre assez large dans la définition même de ce qu'est-ce que c'est être scénographe ou architecte. C'était d'arriver à travailler sur plein de sujets différents, donc plein de terrains, plein de territoires, plein de contextes, en essayant de cultiver une sorte de patte, une sorte de vision des choses. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai envie de raconter. Et en fait, à travers la scénographie, donc l'éphémère ou le pérenne, hein, on travaille un peu entre les deux aujourd'hui, même parfois vraiment dans le pérenne, j'essaie de raconter, à travers les projets, on va dire une vision de l'espace, une vision de l'objet, et ces projets-là, par leur variété, c'est-à-dire on travaille à la fois dans le retail, donc on fait du défilé, on fait du showroom, on fait du pop-up store, on fait plein de choses qui sont assez de l'ordre du commercial. Mais on fait aussi beaucoup de choses dans le culturel, on essaie d'être même acteur dans le culturel, en travaillant pour du spectacle vivant, en travaillant avec des compagnies, en travaillant aussi pour des shows télé, on travaille pour l'Eurovision par exemple, mais peut-être que je reviendrai tout à l'heure, mais on travaille aussi dans le milieu très muséographique d'exposition, et dernièrement justement... on a été sélectionné dans parmi d'une équipe pour le schéma directeur culturel du Centre Pompidou. Ça montre un peu l'éventail aussi de ma pratique à travers du tout ces typologies de projets, mais ça montre aussi que l'architecte, en tout cas, peut se permettre en fait de faire des grands écarts pour essayer de dire ce qu'il a envie de dire et de trouver le meilleur moyen, le meilleur outil pour pouvoir y arriver. L'architecture avec un grand A, l'acte de bâtir, c'est très long. La scénographie et l'échelle dans laquelle je travaille aujourd'hui, donc l'échelle que j'ai choisie, j'ai eu la chance de pouvoir choisir l'échelle à travers justement l'entrepreneuriat, le fait d'avoir monté cette agence. À travers l'échelle, en fait, j'arrive à contrôler le temps, j'arrive mieux à contrôler aussi les choses et de pouvoir essayer d'exprimer ce que j'ai envie de dire. Donc peut-être je peux te citer 2-3 projets qui ont été aussi assez importants pour moi. J'aime bien citer l'Eurovision parce que ça fait aussi référence à ce que je disais au début. C'est l'expression à la fois d'un travail qui, à la fois pour tout le monde, donc l'idée du bien commun qu'on nous apprend en architecture, et à la fois l'envie de faire rêver et d'amener dans un monde qui est quand même assez éphémère, assez pop, de la pop culture, ultra référencé dans un milieu, enfin dans un milieu et dans un contexte super super mainstream, quoi, hyper ouvert, où c'est méga accessible à tout le monde, etc. Et puis sur France 2, quoi, ça me faisait comprendre que c'était un peu là ma place, d'essayer de faire vivre des émotions un peu au maximum de gens. Donc ça, c'est un peu un projet qui m'a beaucoup plu.
Oui, c'était avec quel chanteur ?
C'était avec Ali. Ali, qu'on a accompagné. Puis il avait tout un propos qui était super intéressant.
Oui, c'est une bonne personne.
La découverte de soi. Puis c'est ça aussi l'Eurovision, c'est quand même les bons sentiments.
Oui.
D'autres projets que je pourrais citer, c'est peut-être le dernier travail que j'ai fait au théâtre, enfin qu'on a fait en équipe, évidemment, au Théâtre du Châtelet pour Variation 8, qui est un show télé soutenu et surtout produit par Sourde Oreille pour Culture Box et France Télévisions. Ça a été aussi un moment aussi d'exaltation et de plaisir immense de pouvoir travailler dans une salle pareille, mais aussi de pouvoir proposer un objet, une scénographie en mouvement. C'est la première fois en fait qu'on travaille autour de ça. Et peut-être un dernier projet, peut-être plus muséographique, où on a été scénographe et curateur cette fois-ci pour Agora du Design, par exemple, pour travailler autour des fleurs. Mais si je peux me permettre de rajouter peut-être quelque chose, un chapeau plus grand, je crois que mon travail s'articule autour vraiment de la question des obsessions formelles, des obsessions d'histoire, des obsessions aussi de des choses qui me hantent et qui me font rêver. On a travaillé beaucoup sur le rideau au début, sur une réalisation du coup de plusieurs projets, donc dont l'Eurovision, des rideaux très faciles à mettre en place, où tout est possible, où il y a une variété en fait aussi de possibilités, de matières, de couleurs, de formes. Dernièrement, on travaille beaucoup au niveau avec le gonflable, qui est un matériau absolument dingue, qui me fascine beaucoup. Où tout est possible aussi, parce que c'est super sympa à transporter. Ils sont minimaux et à la fois maximaux. Ils sont à la fois grands et petits. Et en même temps aussi, avec une variété de couleurs, une variété d'applications très grand.
Finalement, tu travailles avec des leitmotifs.
Exactement, avec des mantras ou des... Oui, j'aime bien les appeler des obsessions, parce que c'est des choses qui restent, que j'aime bien marteler comme... Peut-être que ça vient aussi de mon éducation, hein, d'essayer d'aller au bout des choses.
Alors, dans tes leitmotifs, tes clients te suivent assez facilement ? Ils sont arrivés à les convaincre ?
Aujourd'hui, plus.
Oui.
C'est toujours difficile de suivre un artiste scénographe, entre guillemets, parce que je me considère un peu plus comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il essaie de proposer des choses...
Oui, parce que c'est marquant quand même.
Ouais, essayer de travailler sur ce marquage-là, comme se disait cette patte. Au début, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, c'est un peu plus simple. On nous appelle aussi, parfois, pour notre positionnement aussi. Il faut être un peu un caméléon, quand même, pour pouvoir aussi vivre de son travail. Il faut aussi pouvoir faire des concessions. Il faut pouvoir aussi travailler dans... C'est pas toujours parfait. On peut pas toujours tout faire ce qu'on veut. Il faut apprendre à se plier aussi, parfois, aux contraintes des choses et des contextes et des clients. Mais globalement, on essaie de plus en plus. Enfin, on est de plus en plus contacté comme par ça, ouais. Grâce à ça.
Et alors, finalement, la partie architecture dans ce côté éphémère dû à la scénographie, l'architecture, elle intervient comment ? C'est la structure finalement sur laquelle tu t'accroches ? Comment tu définirais ce...
L'architecture, pour moi, est un contexte dans lequel je m'insère. C'est la première piste de réponse. L'architecture, ça peut être aussi celle où je m'accroche, mais c'est aussi peut-être une façon de penser dont j'ai appris en fait. C'est une façon de faire du projet qui est restée dans la manière avec laquelle je suis scénographe aujourd'hui. C'est-à-dire que je sors pas des arts déco, je sors pas des beaux-arts que j'apprécie énormément évidemment. Il n'y a pas de jugement de valeur du tout, mais c'est juste, j'ai pas du tout la même façon de dessiner. En fait, je ne fais pas de décor. Je travaille avec des usages, des fonctionnalités, avec une commande. Je ne travaille pas ex nihilo. Je suis pas non plus, quand je disais artiste, scénographe, je suis pas non plus un artiste avec un grand A. C'est-à-dire que je ne crée pas à partir de rien. Ou d'une idée qui me passe en tête. Mais c'est vraiment la coprésence du contexte, des contextes, du territoire, des énergies, de la commande en elle-même qui construit la scéno. La scénographie, le dessin global. Donc l'architecture est aussi une manière de penser, à mon sens. Il n'est pas simplement un insert, où je m'insère, mais aussi une façon de capter les choses. Ouais.
Parce que tu, il n'y a pas longtemps, je t'ai déjà interviewé dans le cadre de l'article, dans la nouvelle revue d'Archistam Formae,
oui.
Et tu parlais du théâtre du Châtelet, où tu étais venu à accrocher tes gonflables à des structures qui étaient existantes,
oui.
Assez récentes.
Oui, oui, oui. Bah, c'est un bon exemple parce que justement c'est un projet qui est né lors d'une conversation au bureau, enfin, à l'atelier, autour du fait ben en fait ça serait quand même assez chouette de pouvoir utiliser du gonflable parce qu'on en a quand même une centaine, on serait à l'échelle et on serait à l'échelle du Châtelet. Et on a commencé à dessiner des choses, je parlais beaucoup avec ma collègue Agathe, designer avec qui je travaille depuis longtemps. On voulait raconter une histoire, on voulait raconter un paysage en mouvement, parce qu'en fait Variation est une série télévisée qui s'organise chaque année et qui permet, suivant plusieurs actes, plusieurs chapitres, de parler et de travailler autour de la musique classique réinterprétée par des artistes contemporains. Et il y avait trois tableaux. Et en fait, ces tableaux-là, on s'est dit, mais il faut absolument une évolution entre ces trois tableaux, on peut pas faire quelque chose de fixe, ça va être compliqué. Et à travers ces trois tableaux, on a essayé quand même de composer l'espace, d'essayer de dessiner quelque chose, puis je sais pas, il y a un truc qui fonctionnait pas. Puis on a convoqué une visite de site, en se disant, en fait, on aurait dû commencer par là. On s'est toujours commencé par une visite, et cette fois-ci, on l'avait pas fait, je sais plus pourquoi, pour des questions administratives, je crois. On visite. Conversation avec le régisseur qui nous explique justement qu'il y a une centaine de perches qui viennent d'être refaites dernièrement parce que le théâtre du Châtelet a été fermé pendant un moment, gros travaux, etc. Et en fait, il y avait des perches disponibles qu'on pouvait mettre en mouvement avec des écarts de secondes hyper fins, enfin hyper petits. C'est-à-dire qu'on pouvait descendre en quelques secondes en fait les perches et pouvoir avoir des mouvements hyper brefs, hyper rapides, etc. Et bien du coup, on s'est accroché sur ces objets. Pour éviter de recréer en fait une structure. En fait, le projet s'est complètement fait avec son contexte. Il s'est pas fait en dehors de sa mécanique, en dehors de son fonctionnement, mais avec son fonctionnement. Et c'est ça que je trouve assez magique dans notre travail, c'est d'accompagner même des lieux comme ça à se découvrir. Ils n'avaient jamais fait ça. Mmh. Ils n'avaient jamais accroché des objets aussi petits, aussi précieux que des gonflables, parce qu'évidemment il y a une hauteur, il y a une chaleur, il y a plein de conditions pour que le gonflable tienne et vive bien. Et ils ont tenté le coup, ils ont expérimenté avec nous. Et ça a donné lieu à ce projet qui est maintenant diffusé.
C'était la rencontre des gonflables et de la structure.
Voilà, tout à
fait. Paf. Ça a fonctionné. Est-ce que tu aurais un projet emblématique à nous soumettre?
Un projet emblématique, c'est sûrement peut-être le premier défilé que j'ai fait avec l'atelier. J'aime bien le citer parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est Lou Gavrinucci, qui est un créateur de mode assez intéressant, même bluffant, qui rapidement est rentré en contact avec moi pour à la base son magasin fixe. J'étais un peu surpris de cette demande-là, mais on y est allé. Et juste après ça, du coup, il nous a proposé de faire son premier défilé au Palais de Tokyo. Et c'était hyper intéressant. C'était un des projets, je pense... Malgré le fait que ça soit dans l'aspect commercial du retail, m'a prouvé en fait que même avec un sujet qui a l'air très mercantile de vente d'objets, enfin en fait de vente de vêtements, on pouvait arriver à pousser les choses très loin. Et on a travaillé du coup dans la fontaine du Palais de Tokyo.
Mais l'architecture là pour le coup
était absolument dingue, un contexte absolument magique. Mais le rapport à l'architecture était très intéressant aussi là. Par exemple, on a travaillé avec la mode en image, qui étaient les producteurs, évidemment, du projet. Et on avait une problématique d'eau, parce que la fontaine est remplie d'eau. Et pour vider, en fait, cette fameuse fontaine, il faut un nombre de jours. Je crois que c'était 2 jours, ou une journée et demie, je sais plus. Et ce temps-là, additionné en fait au temps de montage, et au temps de défilé, et au temps de démontage, nous a permis de dessiner une forme. Et cette forme, en fait, est la conséquence du temps disponible de montage, et la capacité technique et la capacité économique de pouvoir le produire. Donc c'est devenu une espèce d'objet flottant, une sorte d'énorme miroir, un carré de miroir posé dans l'eau, sous échafaudage. Et ce projet-là était vraiment très intéressant parce qu'il m'a fait comprendre aussi quelque chose qui m'est assez cher, que rien n'est gratuit. Quand on dessine une scénographie, on ne fait pas les choses parce que juste on a eu une vision, etc. C'est qu'il y a des choses très techniques en fait qui rentrent en jeu. Il y a des choses, c'est peut-être mon côté producteur aussi et le fait que j'ai trouvé un vrai intérêt à m'intéresser aux choses assez basiques. Au final, comment ça tient, comment cette chose-là elle va être calpinée, et tout devient en fait assez simple quand on prend le fil de la production et qu'on essaie de relier à la conception. Presque, il faudrait presque réfléchir à la production avant de concevoir. Presque, parfois on se dit que il faudrait presque esquisser le contexte de production d'abord. C'est pour ça que j'ai pas peur de parler de budget, j'ai pas peur de parler de contexte, j'ai pas peur de parler avec les régisseurs, j'ai pas peur de savoir en fait qu'est-ce qui va faire que je vais pas pouvoir faire ça. Mmh. Et qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir faire ça finalement. Et de travailler toujours dans ce côté un peu borderline, trouver un peu la brèche pour pouvoir faire quelque chose qu'ils avaient pas pensé. Mmh. Et c'est un peu ce projet-là.
Pour être créatif, toujours.
Toujours. Mmh. Et c'est ça qui fait qu'à l'agence, on essaie de pousser. Pousser même dans les retranchements les clients et essayer de les amener vers... Bon, ça dépend après de l'énergie qu'on a. Mais parfois, on a envie de pousser la chose très très loin.
Alors justement, ton équipe, par qui es-tu entouré?
J'ai la chance d'être entouré par des gens qui sont assez fidèles. J'aime beaucoup la fidélité. Je suis quelqu'un de très fidèle dans la vie aussi. Et j'ai la chance du coup d'être entouré de designers, d'architectes d'intérieur, d'architectes aussi. Pas forcément que des nationalités françaises, il y a eu aussi des Suisses, des Canadiens, etc. Et aussi des designers graphiques. Et à l'intérieur même de l'agence, on a la chance de pouvoir avoir aussi un pôle production, avec du coup une personne qui m'épaule, qui sort de grosses expériences dans le spectacle vivant. C'est vraiment un atelier à double pôle. Et parfois, je l'appelle atelier, quand je parle, des fois je l'appelle agence, parce qu'on est un peu les deux en fait. On est un peu un atelier d'idées, donc on martèle, on essaie de trouver des solutions, et en même temps une agence parce qu'on essaie de composer une histoire, on essaie aussi de trouver une méthodologie aussi à la réponse, qui vient aussi par la storytelling, l'appréciation des clients, une variété de clients aussi large, et des choses qui sont un peu plus éloignées, disons, que l'architecture pure, jusqu'à la communication, donc... On en a besoin de l'appeler aussi, ça comme une agence.
Mais est-ce que tu penses que tu vas quand même asseoir ton agence avec des projets d'architecture pure?
Ça serait un peu l'idée, je sais pas. Non, je sais pas.
Finalement, la commande, elle vient naturellement.
Elle vient plus naturellement. Après, on essaie d'initier des choses. Après, je reviens aussi à l'édition. Ça aussi, c'est la chose qui m'avait manqué, disons, pendant quelques années, où avec le Covid, ça a été quand même une catastrophe culturelle, en tout cas. Me concernant, ça a été vraiment l'appauvrissement de beaucoup de choses.
Traversée du désert.
La traversée du désert pour l'atelier. Mmh. On était retourné à une personne. Enfin, on était deux, quoi. Moi et quelqu'un. Et ensuite, j'ai dû arrêter l'édition. C'était vraiment une catastrophe pour moi de l'arrêter, mais je l'ai fait. C'était vraiment un échec. Et là, je suis content de relancer l'édition. Je sais pas si j'ai vraiment le goût de l'architecture, en tant que telle. Je sais pas si je l'ai. Je sais pas si j'ai le goût du bâtiment, on va dire. Je pense que j'ai le goût de collaborer avec des agents d'architecture, collaborer avec des architectes avec grand plaisir, mais pas forcément d'en être. Je pense à 100% en tout cas.
T'es un architecte en mouvement.
On va dire ça.
Bon. Quel éclairage donnerais-tu à tout à chacun pour appréhender ce monde très compliqué justement dans lequel on vit? Tu as évoqué le Covid.
Oui.
Là, on a l'impression que plus le temps avance, pire c'est à chaque fois.
Ouais.
On n'a plus du tout envie d'ouvrir ni sa radio, ni sa télé. Et en même temps, il faut bien se tenir au courant.
Ouais. C'est marrant, ça m'a fait tout de suite penser à une chanson d'Axel Red. J'ai toujours gardé espoir, je sais plus comment elle disait. Aujourd'hui, je n'ose plus y croire, quelque chose comme ça. Mais il y a un truc comme ça, j'adore faire des références pop parce que c'est là aussi que beaucoup de choses se cristallisent. Dans une espèce de. C'est pour ça qu'on est, que j'aime bien écouter aussi des choses très. Très du langage du commun, en fait, parce que. Ou des choses qui sont peut-être. Qui ont l'air banales, mais en fait, il y a quand même des écrivains qui ont écrit des choses assez, assez dingues et même des paroliers qui ont écrit des choses assez dingues sans le vouloir. Pour revenir à la question, je pense qu'on a besoin d'avoir un échappatoire sans pour autant avoir les yeux fermés sur ce qui se passe. Je pense qu'on a une responsabilité de raconter des histoires. On a une responsabilité d'essayer de continuer
d'y croire, fédérer.
De fédérer, de croire qu'on peut fédérer. Mais en aucun cas, on est une puissance divine, quoi. On cherche un peu tous, effectivement, cette lumière-là. Où, je pense qu'on cherche tous peut-être à croire à quelque chose, en tout cas à une lumière qui pourrait nous animer à quelque chose qu'on aime profondément, en fait. Si on a le goût d'aimer, pour moi, on peut avancer fort, quoi. Aimer ce qu'on fait, aimer les autres, c'est assez simple, assez basique ce que je dis, mais aimer juste prendre un café avec un ami, discuter de vraies choses, etc. Et aussi faire des choses dans le milieu professionnel qui ont du sens et qui peuvent aider à son humble
échelle,
effectivement, les choses et trouver du sens, quoi, aux choses.
Comment
et pas
tu
faire les choses de manière dissociée de ce qui se passe.
Comment tu imagines le monde de demain, peut-être par rapport à toi-même ou à une... comme tu veux, empare-toi de la question.
Imaginer le monde de demain, pour moi, c'est à la fois dangereux pour moi, enfin, c'est-à-dire que je me mets dans un. Ça me fait peur. Et en même temps, on y va. On n'a pas le choix d'y aller. Il y a un truc assez pragmatique, disons. Dans tous les cas, il va falloir y aller. Et on y va. On y va à grands pieds, on y va à grands pas. Et ça fait un peu peur. Et ça me fait un peu peur à la nouvelle génération qui arrive de composer avec tout ça. Et je pense qu'on a tous besoin d'avoir un peu d'humilité, d'avoir un peu de compréhension. Enfin... d'entamer, disons, un processus de réflexion assez fondamental sur qu'est-ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que notre métier va devenir, qu'est-ce que... Aujourd'hui, on est en plein... Par exemple, j'ai envie de rééditer, par exemple, et réécrire, parce que je me suis remis à écrire il y a à peu près 6 mois, après une séparation amoureuse, parce que je crois que j'avais besoin de trouver du sens aux choses. Et pour moi, l'écriture est une façon de réfléchir et de pouvoir, décrire ce que je vois et décrire ce qui me traverse personnellement, mais aussi professionnellement. Et aujourd'hui, relancer l'édition, la revue s'appelle JTM, quoi. Je t'aime, je t'emmerde, ou je te mens, ou je te mange, comme ce qu'on veut. Mais c'est très impulsif et en même temps, c'est très basique de dire, en fait, qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire, en fait, que notre métier ou ce qu'on crée, en fait, va exister demain. En fait, qu'est-ce qu'on laisse de tout ça? Et travailler dans l'éphémérité, comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être une façon, et ma réponse à moi, de faire des choses, puis de montrer quelque chose, puis peut-être en avançant, le préciser, ou le changer, ou changer une pièce, ou changer un rouage, comme une fleur qui... Mon père m'expliquait que quand on plantait une fleur pour la première fois, elle avait un certain rendement, elle avait une certaine beauté, mais plus le temps avance... Et plus la fleur, elle se modifie forcément dans le temps, parce que son ADN change un peu, ou qu'en la travaillant, lui donnant une certaine à manger d'une certaine façon, elle se modifie. J'ai l'impression que je travaille un peu dans cette dynamique-là de j'ai planté quelque chose il y a quelques temps, j'essaie de voir un peu comment elles germent et comment elles avancent, comme si je pouvais en rajoutant quelque chose ou un ingrédient la modifier un peu, ou en tout cas lui faire trouver son chemin.
Alors, le projet d'écriture, tu vas à nouveau fédérer des gens autour de toi?
Ouais, je pense que c'est indispensable pour moi.
Ouais.
Je pense que je peux pas écrire tout seul. Je pense que je pourrais écrire tout seul un livre, je pense, sur plus d'autres sujets que l'architecture et la scénographie. Mais pour moi, la scénographie, c'est des humains pour des humains. Avant tout. C'est-à-dire que je collabore vraiment avec des humains pour pouvoir répondre à des questions très humaines et très pragmatiques aussi. C'est pas de la décoration. Vraiment, c'est important pour moi de le rappeler parce qu'on répond à une envie de sens, à l'expression en fait d'un message. Et oui, je pense que la revue qui du coup va s'appeler JTM va être justement un catalyseur nouveau, comme Pli l'était. Pli était une approche très empirique de la découverte du design et de l'architecture en fait pour moi, du milieu aussi du design graphique. JDN va aussi être une façon d'approcher et de chercher des nouvelles formes pratiques et théoriques autour de l'architecture et du design. Et comme pour moi, l'édition est vraiment un outil, n'est absolument pas une finalité, mais vraiment un outil pour permettre le passage d'un état à un autre, ou en tout cas d'idée en idée, de maturation d'idées. Où c'est fou comme avec les autres, on apprend mieux et on apprend plus vite.
Et alors, ce qui, moi, m'étonne, mais dans le sens très positif du terme, tu as 31 ans, tu nous as dit ça tout à l'heure, on dit qu'aujourd'hui, on lit de moins en moins.
Ouais.
Tu arrives à trouver un écho à cette appétence pour l'écriture, suffisamment nourrie dans ta génération ?
Je trouve que le numérique nous a beaucoup éloignés de l'écriture,
ouais,
et de la lecture. Moi, pour moi, la lecture a été fondamentale. Je me souviens même de moments dans le métro où je lisais des livres de design et je me disais, ah ouais, c'est ça, en fait. Et je trouve que j'en ai lu plein. Et à travers même les conversations que j'ai eues avec Mathalie Crassé ou Didier Faustino, que j'aime beaucoup, qui font partie d'une autre génération, quoi. J'ai eu une discussion avec notamment Didier qui me disait, lui aussi, il a fait une revue. Parce qu'il avait envie aussi de donner et d'être dans une dynamique de publication pour pouvoir dire des choses, quoi. Et je pense que le médium livre, pour moi, c'est une forme assez infinie de découvrir des choses, mais aussi de pouvoir les cristalliser. À travers l'édition et l'acte d'éditer, pour moi, c'est comme l'acte de bâtir, c'est de pouvoir cristalliser des choses dans un temps et dans une époque donnée. Et mon grand objectif, c'est de me dire que le livre que je sors, ou la revue que je sors, ou le texte que j'écris, je vais pouvoir essayer de le relire dans 10 ans. En me disant, non pas que je vais révolutionner le Schmilblick à l'instant T où je l'écris, mais de l'écrire de la manière la plus universelle, ou éditer de la manière la plus large possible, pour que le propos soit à la fois radical, mais pas obtus. Ne soit pas fermé, mais plutôt très très ouvert sur le milieu dans lequel on est. Par exemple, Pli 01, qui était sur l'hypertextualité, j'y pense tout le temps. C'était quand même mettre en rapport des idées les unes avec les autres en cliquant et en avançant sans cesse en fait sur un sujet. Le deuxième, c'était le format. Bon, voilà, le format, aujourd'hui, on en parle encore. Le conflit, évidemment. On traitait le conflit en 2017, qui était différent par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Mais dans le monde contemporain, etc., et dans la création, la matière, ça toujours aussi, ça, c'est le quatrième. Et le cinquième, c'était sur l'obsession. Ben, aujourd'hui, ça reste quand même aussi quelque chose qui me touche. Puis minimal, maximal était le dernier. Et j'ai l'impression qu'on se doit, peut-être, d'être, à travers l'édition, de ne pas être anecdotique, mais de chercher peut-être, au maximum, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses, l'ouverture la plus grande pour que tout à chacun puisse
se retrouver
et s'approprier les choses. Comme une architecture, peut-être.
Une quête de beauté, peut-être.
Oui, beaucoup.
Quel conseil donnerais-tu aux étudiants en architecture aujourd'hui ?
Le conseil... J'ai toujours été mauvais en conseil. Parce que j'ai un caractère un peu paternalisant. C'est-à-dire, je suis très... je peux être très facilement dans un mood très... faudrait plutôt faire ci plutôt que faire ça. Donc, c'est pas du conseil que je donne, c'est plutôt des choses que j'ai vécues, comme des
oui, sortes de vérités.
Ah bah voilà, ouais, voilà, qui est pris souvent comme une vérité, mais ça n'est pas une. Je dirais plutôt que c'est plutôt j'ai envie presque de parler d'exercice de style, c'est-à-dire d'essayer toujours d'être dans l'exercice de chercher, ne jamais s'arrêter à ce qu'on voit, d'avoir une énergie, d'avoir un dynamisme, d'oser entreprendre, d'oser se poser des questions, ne jamais se dire que ce qu'on nous dit est forcément la vérité. et presque d'avoir une approche très journalistique ou très, on va dire, dans la confrontation de plusieurs journaux en même temps, dans la lecture de quand on lit, moi quand je lis sur un sujet dans le design, j'aime bien lire 3 ou 4 livres différents pour comprendre un peu le même point de vue sur, par exemple, sur le design ludique ou le design éphémère, choses comme ça, et ou l'architecture éphémère, etc., ou l'art povera, pardon. Et je pense que oui, c'est surtout être curieux, quoi, de savoir savoir être curieux. En tout cas, apprendre à être curieux.
Apprendre à être curieux. Un mot de la fin ?
Merci.
C'était avec grand plaisir. On a beaucoup, comment dirais-je, voyagé. Et ce qui est très plaisant dans ces interviews, c'est que à chaque fois, il y a un ADN différent. C'est comme les fleurs, c'est très varié, très riche. Voilà. Merci beaucoup, Christophe.
Avec plaisir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.